Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 7 Bahman 1400 du calendrier iranien, 27 janvier 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Inde lancera une nouvelle ligne maritime vers Chabahar en Iran le mois prochain. Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue qatari se rencontrent à Téhéran. Lors de pourparlers à Vienne, l'Iran a rejeté les allégations de la ministre britannique des Affaires étrangères. Les États-Unis activent les cellules dormantes de Daesh en Syrie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, vient de rencontrer son homologue qatari, Mohammad Ben Abdulrahman Al-Sani, qui se trouve à Téhéran pour une série de réunions de haut niveau sur des questions régionales. Mohammad Ben Abdulrahman Al-Sani, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, qui s'est rendu à Téhéran, a été accueilli par le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, jeudi. Avant leur rencontre, les deux diplomates s'étaient également entretenus au téléphone mardi. La nécessité de poursuivre les consultations sur le maintien de la paix et de la stabilité régionale est au cœur des rencontres. Les deux parties souhaitent également étendre les liens entre Téhéran et Doha dans divers domaines. Les responsables qataris ont appelé à davantage de coopération avec l'Iran, principalement dans le domaine économique. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux ministres depuis ces dernières semaines. Amir Abdollahian s'est rendu à Doha au début du mois. L'Iran a critiqué les allégations de la ministre britannique des Affaires étrangères, selon lesquelles Téhéran est responsable de l'impasse dans les pourparlers en cours sur la relance de l'accord nucléaire à Vienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a rejeté les allégations contre-productives avancées par Liz Truss, les qualifiant d'irresponsables et de sans fondement. Saïd Khatibzadeh a en outre souligné que c'est grâce à la patience stratégique de l'Iran que l'accord nucléaire de 2015 est toujours vivant et que les pourparlers sont toujours en cours. Il a appelé les autres parties à abandonner le jeu usé du blâme et à montrer leur détermination pour parvenir à un bon accord autour de la table du dialogue. Saïd Khatibzadeh a également averti que la fenêtre des négociations ne restera pas à jamais ouverte. Liz Truss, dont le pays n'a jamais honoré ses engagements vis-à-vis de l'Iran liés à l'accord nucléaire, a affirmé mardi que les négociations de Vienne se trouvaient dans une dangereuse impasse et que l'Iran en est responsable. De telles accusations et menaces ne peuvent pas non plus faire échouer la détermination de la République islamique d'Iran à parvenir à un accord de qualité, durable et fiable qui garantirait les intérêts de la nation iranienne, a noté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. L'envoyé de la Syrie auprès des Nations Unies a déclaré que les récents incidents dans la ville de Hasakeh prouvent que les États-Unis sont une fois de plus en train de restaurer le groupe terroriste Daesh. Selon Bassam Sabbah, Washington cherche des justifications à sa présence militaire continue sur le sol syrien. Il a appelé le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à examiner l'urgence des répercussions de ces événements dangereux. Sabbah dit que les États-Unis utilisent leur présence illégale en Syrie pour parrainer des terroristes et piller les ressources naturelles, en particulier le pétrole syrien. Il y a quelques jours, quelques 200 membres de Daesh ont orchestré une offensive contre une prison de Hasakeh qui abrite des milliers de terroristes. Les combats ont finalement pris fin au bout de 7 jours. La milice kurde des forces démocratiques syriennes, soutenue par les États-Unis, a déclaré qu'elle contrôlait la prison et toute la région. Le Yémen conseille aux autorités saoudiennes et émiraties de ne pas compter sur les vaines promesses de soutien de leurs alliés étrangers. Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Hashem Sharaf, a déclaré que son pays avait évité de cibler les Émirats arabes unis après que le pays a annoncé qu'il se désengagerait de la guerre. Mais encore une fois, les Émirats arabes unis ont montré qu'ils faisaient toujours partie de la coalition d'agression saoudienne et qu'ils étaient profondément empêtrés dans le conflit. Sharaf a déclaré que cela a forcé le Yémen à agir. Selon le ministre, les forces yéménites ont le droit d'utiliser toutes leurs capacités militaires pour défendre le peuple contre toute source de menace. Plus tôt ce mois-ci, les forces yéménites ont ouvert un nouveau front dans le conflit avec une frappe sans précédent sur une installation pétrolière près de l'aéroport d'Abu Dhabi. L'envoyé émirati aux Nations Unies a demandé plus de soutien américain pour intercepter les missiles yéménites. Et enfin, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a indiqué jeudi que les États-Unis n'avaient pas donné de réponse positive à la principale revendication russe, à savoir la fin de l'élargissement de l'OTAN, en particulier en Ukraine. Il n'y a pas de réponse positive à la question principale dans les documents reçus par Moscou de la part de Washington, mais il y a une réaction qui permet d'espérer le début d'une conversation sérieuse sur des questions secondaires, a indiqué Sergueï Lavrov dans un communiqué. La question principale est notre position claire sur le caractère inacceptable de la poursuite de l'expansion de l'OTAN vers l'Est et du déploiement d'armes de frappe qui pourraient menacer le territoire russe, a précisé Sergueï Lavrov, dénonçant une nouvelle fois l'expansion effrénée de l'Alliance Atlantique malgré les promesses faites à Moscou dans les années 1990. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'il appartiendrait désormais au président Vladimir Poutine de décider des prochaines étapes de la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que les remarques des États-Unis et de l'OTAN, selon lesquelles la principale demande de la Russie était inacceptable, ne laisse pas beaucoup de place à l'optimisme. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Nouvelle route maritime directe entre le port iranien de Chabahar dans le sud-est du pays et les ports indiens de Nawasheva et de Kandla ouvrira le mois prochain avec l'arrivée d'un service de conteneurs au port Shahid Beheshti de Chabahar, a déclaré un responsable iranien. L'Inde a lancé des lignes maritimes entre Chabahar en Iran et les ports indiens de Mumbai et Mundra en 2017. Elle a mis en place la deuxième route maritime directe passant par Mumbai, Mundra, Kandla, Chabahar et enfin le port iranien Bandar Abbas dans le sud de la République islamique d'Iran en janvier 2019. Selon le chef adjoint de l'organisation iranienne des ports et de la navigation, Jalil Eslami, un nouveau porte-conteneur arrivera à Chabahar en février, marquant l'établissement d'une nouvelle ligne maritime entre l'Inde et le port de Chabahar. Il a déclaré que l'organisation iranienne des ports et de la navigation offrira des incitations tarifaires et les facilités nécessaires pour les péages et les coûts de transport pour soutenir les entreprises qui utilisent ces lignes. L'Organisation des lignes maritimes de la République islamique d'Iran, a déclaré Jalil Eslami, assure un service régulier de conteneurs avec un délai de trafic de 10 à 15 jours. En novembre 2021, l'ambassadeur d'Iran en Inde a annoncé que Téhéran s'attendait à ce que New Delhi reprenne les importations de pétrole de la République islamique d'Iran et passe à la prochaine phase de développement du projet de port de Chabahar. Selon M. Ali Cheghini, le commerce entre l'Inde et l'Iran a dépassé la barre des 17 milliards de dollars en 2018-2019 et aurait pu atteindre les 30 à 35 milliards de dollars si New Delhi n'avait pas suspendu les importations de pétrole iranien. Il s'est également plaint qu'il n'y avait pas assez de volonté de la part de New Delhi pour développer ses activités pour achever le projet de Chabahar. Sur le papier, Chabahar n'est pas l'objet des sanctions illégales des États-Unis, a-t-il déclaré. Mais l'Inde a probablement peur de l'influence négative des États-Unis en ce qui concerne les investissements et l'application des projets à Chabahar. Dans le cadre d'un contrat trilatéral signé avec l'Iran et l'Afghanistan, en mai 2016, l'Inde développe deux quais au port Shahid Beheshti de Chabahar avec un investissement total de 85 millions de dollars et les exploitera sur un bail de 10 ans. Les opérations dans les terminaux ont en quelque sorte commencé, mais New Delhi n'a pas avancé sur la prochaine phase du projet, qui consiste à construire une liaison ferroviaire entre Chabahar et la ville iranienne de Zahedan, près de la frontière afghane. L'Inde devait également investir dans le projet de la construction d'usines d'engrais, d'usines pétrochimiques et métallurgiques dans la zone de libre-échange de Chabahar. Mais elle les a abandonnées de peur qu'elles ne provoquent la colère des États-Unis. La République islamique d'Iran a décidé de développer elle-même la liaison ferroviaire l'année dernière. Monsieur Cheghini, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Inde, a déclaré que le projet est achevé à plus de 70%, mais que l'Inde peut toujours le rejoindre pour la signalisation et d'autres développements d'infrastructures. Chabahar est une très grande zone d'investissement et il y a une zone de libre-échange. Il y a beaucoup d'opportunités pour l'Inde de venir investir à Chabahar. Malheureusement, le secteur privé indien hésite encore à cause d'une certaine crainte concernant les sanctions unilatérales des États-Unis. Je suis sûr que le gouvernement indien le souhaite, mais la vitesse n'est pas là, a-t-il déclaré. Le président iranien Ebrahim Raisi a nommé un représentant spécial pour l'Inde pour la première fois dans l'histoire des relations entre les deux pays.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ce qui se passe au Yémen. Vous en souvenez, il y a deux semaines, nous avons eu en fait une émission sur le Yémen, la riposte de la résistance yéménite qui avait en fait lancé des attaques aux drones et aux missiles contre les positions des Émirats Arabes Unis, un pays qui en fait participe à cette guerre d'agression contre le Yémen dans le cadre de cette soi-disant coalition, si vous voulez, dirigée par l'Arabie Saoudite. Et la résistance yéménite avait promis des frappes douloureuses contre les Émirats Arabes Unis et contre l'Arabie Saoudite en cas de la poursuite des agressions contre le peuple yéménite. Et c'était après cette première riposte de la résistance yéménite aux des Émirats Arabes Unis qui a eu en fait ces bombardements massifs, ces frappes aériennes massives contre le peuple innocent yéménite à tel point que la coalition d'agression dirigée par l'Arabie Saoudite a mené une frappe aérienne contre une prison, si vous voulez, en territoire yéménite, d'une frappe qui a été vivement condamnée de la coalition d'agression qui a mené des attaques contre des zones résidentielles, surtout en fait dans la capitale yéménite de Sanaa. Mais en dépit de tout cela, il n'est pas question, si vous voulez, pour la résistance yéménite de céder aux pressions et aux menaces. La preuve en est cette deuxième riposte de la résistance yéménite contre les Émirats Arabes Unis et contre l'Arabie Saoudite. Plusieurs cibles en profondeur du territoire émirati et saoudien ont été déciblées une nouvelle fois par la résistance yéménite. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Neurostine. Bonjour à tous vos auditeurs et bonjour à votre invité, Maître Develay, je crois.
Vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales, M. Dortiguier, un vrai analyste des questions relatives au Moyen-Orient. Il s'agit de Maître Arne Develay qui est avec moi pour cette émission depuis Damas. Maître Develay, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci à vous, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au docteur Dortiguier.
Maître Develay, on va commencer avec vous aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, votre analyse s'il vous plaît.
Alors à titre liminaire, il faudrait informer aussi nos téléspectateurs que la nuit dernière, la coalition d'agression menée donc par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont lancé une offensive aérienne extrêmement violente qui a détruit des infrastructures dont un hôpital et qui a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de victimes, encore une fois. Pas moins de 16 raids, ce qui à ce jour s'apparente à l'offensive aérienne la plus fournie depuis le début du conflit, et que visiblement, vraisemblablement, ce à quoi nous assistons est une escalade maintenant, puisque visiblement les Émirats, malgré les accords qu'ils avaient conclus avec la résistance en 2019 portant sur l'arrêt du soutien à des forces auxiliaires sur le terrain, avait récemment réactivé ses forces, notamment un groupe qui s'appelait les géants importants, quelque chose comme ça, qui s'en sont pris donc aux forces de la résistance sur le front de Chabois afin d'essayer de briser le siège de Marib. Et cela, bien sûr, a été combiné à l'interception par la résistance d'un navire qui, au lieu d'être un navire humanitaire, était en fait un navire rempli d'équipements de surveillance et d'équipements et d'armement en provenance des Émirats. Et si vous voulez, de fil en aiguille, les frappes sur les troupes d'Ansarallah et de l'armée yéménite, malgré les avertissements de la résistance, ont mené cette dernière à prendre des actions décisives. Et vous l'avez souligné en ouverture, effectivement, envoyer donc des drones et des missiles au cœur des Émirats, sur l'Émirat d'Abu Dhabi. Visiblement, cela n'a pas dissuadé Abu Dhabi de se désister. Bien au contraire, puisque l'année dernière, encore une fois, c'est cette fois-ci donc les avions émiratis et saoudiens qui ont vraiment écrasé de bombes des résidences, des endroits qui n'avaient absolument aucune importance militaire, et qui plus est des antennes de relais de communication, ce qui fait que visiblement on peut maintenant percevoir une stratégie qui vise à complètement isoler le Yémen du reste du monde afin de pouvoir, si je puis dire, perpétrer des exactions loin de toute attention médiatique. De toute évidence, la résistance va riposter. On apprend maintenant, enfin, de porte-parole de l'armée yéménite a laissé entendre que Dubaï était dans la base de données aussi. Mais aussi certainement le port d'Elat, puisqu'on sait maintenant de manière avérée que les Israéliens participent à ces opérations, que le gouvernement de l'entité sioniste a lui-même proposé son aide de manière ouverte, et donc on semble s'acheminer vers une escalade, en tout cas au jour d'aujourd'hui.
Monsieur Dortiguier, vous avez entendu Maître Develay. Maître Develay dit que voilà, et le porte-parole de l'armée yéménite l'a confirmé, que voilà, de Dubaï est désormais dans, si vous voulez, sur la liste des cibles à visées par la résistance yéménite. Maître Develet dit que voilà, une autre cible pourrait être le port israélien d'Ilat, M. Dorsiguit, parce que en fait, il y a des preuves comme quoi le régime israélien aussi participe à ces raids contre le peuple yéménite. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Eh bien, si je puis en effet prolonger ce que vient de dire Maître Arnaud Velay sur Eilat, je dirais que cette implication israélienne pourrait être aussi une sorte de provocation israélienne pour pouvoir justement être atteinte, c'est-à-dire crier à l'agression, déformer bien sûr la guerre de résistance yéménite en guerre, disons, directement dirigée contre, en guerre dirigée contre elle, je parle de l'entité sioniste, et donc par là même entraîner ses alliés, car c'est là le sens de la politique constant, le sens constant de la politique israélienne, c'est de faire la guerre par ses alliés. Et je crois que c'est une manière de vouloir fixer, peut-on dire, les anglo-américains, et même, disons, plus large que cela, pour pouvoir, disons, déplacer le sens de cette guerre d'agression menée par l'Arabie saoudite et ses alliés donc contre le Yémen, en guerre, disons, on criera dans la presse ici, d'extermination, vous voyez, d'autres mots comme cela, enflés, disons, avec une enflure de la propagande contre l'entité sioniste. Tout ceci pour brouiller les cartes. Vous voyez, c'est, je crois là, le véritable, le grand danger, le danger futur. Parce que sur le plan, sur le terrain, bien sûr, la victoire de la résistance yéménite est éclatante, bien sûr. Ces bombardements de terreur qui ont lieu donc sur les hôpitaux, sur les habitats civils, etc., ressemblent évidemment à ces bombardements de terreur, vous savez, qui ont accompagné, si je puis me permettre de remonter loin dans l'histoire, qui remontent à ce mois de février 45, lorsque Dresde était touchée chez nous, par exemple, par l'aviation anglo-américaine en Allemagne, et qu'à ce même moment, les accords sur le croiseur Quincy, vous savez, faisaient que l'Arabie saoudite devenait un allié, un client, voyez, à vie des Américains. Je crois que ce baptême de l'Arabie saoudite, ce baptême, disons, je ne dis pas de sa naissance, mais ce baptême, disons, de cette alliance, disons, avec les forces occidentales, se manifeste encore aujourd'hui. Et là, si c'était le cas, si notre analyse est juste, on verrait qu'il y a une complicité de naissance, si je puis dire, complicité structurelle entre la politique suivie par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en premier, et les visées israéliennes. Israël est une puissance offensive qui veut toujours avoir le masque d'une victime. Je ne sais pas si je me fais clairement entendre, mais c'est là le véritable danger de la stratégie actuelle, voyez-vous, qui se destine dans ce... C'est-à-dire qu'on passe une guerre d'agression contre le Yémen à finalement une guerre d'agression, disons, de l'entité sioniste contre tous les États de la région, voyez-vous, en se présentant, je répète, comme une victime, alors qu'en réalité, elle est le moteur de l'agression, mais qu'elle ne fait pas elle-même, qu'elle fait faire par ses alliés.
Maître Develet, M. Dorsiguit parle d'une complexité de politique, connivence de politique entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël dans cette guerre d'agression contre le Yémen. Maître Develet, en fait, les Émiratis, les Israéliens, les Saoudiens, pour reprendre en fait l'analyse de M. Dorsiguit, ont-ils le feu vert des États-Unis ou pas?
Oui, on peut penser qu'en tout cas, ils ont le feu vert d'une faction au sein de l'appareil américain, parce que c'est celle de Joe Biden qui lui-même n'est qu'un exécutant, un fidéicommis, j'allais dire, est une question secondaire. Mais le lobby israélien à Washington, bien sûr, a toujours poussé pour, déjà dans le cadre de l'administration Trump, pour cet accord du siècle, alors même que les Palestiniens étaient complètement laissés de côté. Avec ces accords de normalisation dits Abraham, dont on a pourtant pu voir que récemment, et notamment vis-à-vis des Émirats arabes unis, ils avaient du plomb dans l'aile. Et là, quelque part, je dois dire que par la force des choses, il y a une dynamique à l'œuvre qui semble plutôt porteur pour les Israéliens, dans le sens où les Émirats vont avoir besoin de garder la face, sauver la face. Et c'est certainement dans ce contexte-là une occasion aussi de relancer le débat qui aussi est en perte de vitesse, grâce notamment à la diplomatie régionale exercée par la République islamique d'Iran auprès de ses voisins du Golfe Persique, d'un OTAN arabe. Et ça, c'est inquiétant, parce que après, il sera très facile pour les médias impériaux d'établir un trait d'union entre la résistance yéménite et la République islamique d'Iran, et ce faisant remettre sur la table cette idée d'OTAN arabe et retourner ensuite, si je puis dire, les opérations vers ce que eux considèrent leur cible principale, à savoir Téhéran.
Monsieur Dortiguet, cette tentative de rapprochement entre Téhéran et les pays arabes de la région inquiète, comme l'a dit monsieur Develé, en fait, certaines, si vous voulez, acteurs, certaines parties. Est-ce de votre avis également?
Oui, en effet. Je me permettrai de répondre en même temps que, enfin, après Maître Develé, à votre question précédente. Je crois que c'est là le sens. C'est un premier sens à établir. Quelle que soit l'attitude, bien sûr, des démocrates, etc., par rapport aux Israéliens, tout favorable. Je crois qu'il y a une pression, cependant, exercée sur l'exécutif américain pour qu'il intervienne. Et je crois que ceci se fait, une pression exercée par l'entité sioniste. Et il est certain que l'entité sioniste parle en maître dans cette région, elle parle en maître aux Américains, parce qu'elle elle joue sur plusieurs cartes. Vous savez, pour connaître un individu, connaître une espèce, il faut souvent regarder sa naissance. À sa naissance, il y a eu plusieurs personnes dans le berceau de l'entité sioniste. Il y a eu l'Est et l'Ouest. Voyez-vous, aujourd'hui, l'entité sioniste regarde, bien sûr, davantage vers l'Ouest. Vous voyez, vers l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, etc., et l'OTAN. Elle a également un œil sur l'Est. C'est-à-dire que le grave danger, c'est de déséquilibrer les rapports de grandes puissances, les faire agir dans un sens, je parle des grandes puissances comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, ou l'Europe, les faire agir au-delà des limites qu'elles-mêmes se proposent. C'est-à-dire jouer la carte de la catastrophe, en sachant que Israël sera toujours, bien sûr, préservé par les différentes armées. Vous voyez, c'est un jeu, je ne dirais pas suicidaire, c'est un jeu qui touche à la folie, qui n'est pas raisonnable et qui un jour entraînera de très très graves conséquences. Mais entre ces conséquences dernières et la situation d'aujourd'hui, il y a malheureusement toute une liste de crimes, une liste de souffrances, voyez-vous, auxquelles nous pouvons nous attendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, dans les circonstances actuelles, je dis ça par prudence, formuler un jugement, disons, optimiste. Il ne faut pas être pessimiste, mais il faut, disons, être très prudent, car nous avons affaire à une guerre ouverte, en même temps qu'à une guerre, je ne dirais pas secrète, mais une guerre, disons, plus sourde, qui cache, disons, ses objectifs. Nous avons affaire, disons, à des gens qui sont, je parle de l'entité sioniste, qui ne peuvent pas supporter un règlement quelconque en Orient. Un règlement pacifique, disons, mais que ce soit même un armistice de très longue durée. Il leur faut une agitation permanente, exactement comme beaucoup de leurs idéologues qui se retrouvent chez les conservateurs américains prêchent la révolution permanente. Une sorte de trotskisme, voyez-vous, qui est toujours, si je puis dire, revigoré comme on revigore un vaccin, voilà, comme on reprend un vaccin, si je puis me permettre d'employer une métaphore actuelle. Et ceci donc fait qu'il faut, pour résister à ces agressions, une capacité militaire, bien sûr, c'est ce que Ansar Allah montre, mais en même temps aussi une instruction politique. Il faut une sorte de vision, je ne dis pas religieuse du monde, mais une vision politique du monde, qui est une sorte de prudence, si je puis dire, tirée de l'histoire, voyez, et qui fasse que des États qui sont peut-être différents dans leur conception, l'un qui soit peut-être plus laïque, l'autre qui soit plus religieux, voient l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le déséquilibre. L'ennemi commun, c'est l'entrée en guerre, la guerre permanente. Je crois qu'il faut absolument éviter cet écueil, qui est un écueil satanique, voyez-vous. Et disons que savoir faire des concessions selon la justice, voyez-vous, mais éviter que nous rentrions dans une véritable guerre, disons, permanente, une guerre terroriste, qui pour certains a des aspects révolutionnaires, d'autres de quelque aspect que ce soit. Nous avons affaire à des laboratoires qui lancent des virus, si je puis dire. C'est une métaphore, bien sûr, que je donne. Et ces virus-là, ces virus de la guerre civile, ces virus de, disons, de la terreur, ce sont des, disons, des armes qui sont destinées à durer longtemps, voyez-vous. Il faut donc avoir une perspective, disons, de longue durée. Accepter même de faire des concessions, c'est, je crois, ce que fait le gouvernement de la République islamique d'Iran. Je ne dis pas des concessions sur le fond, mais savoir, disons, réaménager une stratégie, car il importe avant tout de préserver la paix. Une paix sur la justice, oui, mais une paix cependant.
Maître de Vaudet, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que en fait, la coalition d'agression a ciblé même des relais d'antennes de télécommunications. L'objectif en est, selon vous, d'isoler, si vous voulez, Yémen, les Yéménites du reste du monde, pour passer ensuite, si vous voulez, aux massacres, peut-être aux exactions. Comment peut-on expliquer, Maître de Vaudet, vous êtes juriste international, comment peut-on expliquer ce silence de ce qu'on appelle la communauté internationale face à ce qui arrive aujourd'hui aux des civils innocents yéménites?
Je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que le droit humanitaire international et les droits de l'homme ne sont en fait que des éléments de langage utilisés par certaines puissances occidentales depuis un certain nombre d'années. Que le vrai droit international, c'est quelque chose qui se base sur un équilibre de force et de rapport de force, et qu'au travers de ce rapport de force, un équilibre est atteint et un consensus se dégage, à travers lequel ensuite des règles de droit coutumier peuvent émerger. Là, en l'occurrence, nous sommes en présence d'une situation où, sur le théâtre yéménite, toute la puissance, si je puis dire, des monarchies golfiennes et de leurs équipementiers occidentaux, le tout chapeauté par la classe médiatique, travaille de concert pour mitiger toute information et toute connaissance du public. Vous ajoutez à cela, bien sûr, les autres foyers de déstabilisation dans le monde qui font que le Yémen, quelque part, n'est peut-être que le deuxième ou troisième sujet au jour le jour dans les actualités. Et c'est celui qui forge, si je puis dire, le narratif qui permet de mettre en avant tel ou tel dossier qui, ensuite, peut être en mesure d'actionner des mécanismes internationaux, des commissions d'enquête. Mais lorsque vous avez en même temps des questions financières liées au financement de ces institutions, où on sait maintenant depuis des années que l'Arabie Saoudite, pour ne citer qu'elle, mais elle n'est pas la seule, finance des pourcentages importants des budgets, arrive à user de son influence pour invalider des résolutions de l'Assemblée générale portant sur une commission d'enquête, par exemple. On réalise que les Nations Unies, puisqu'on parle du système international, a ses limites. Il a montré ses limites là dans cette affaire du Yémen, où malgré les déclarations plus ou moins timides d'Antonio Gutiérrez et de certains membres de son organisation, on s'aperçoit que le Yémen est livré à lui-même. Et quelque part, c'est terrible pour l'État de droit, c'est terrible pour la sécurité internationale. Et c'est terrible pour la morale humaine, si je puis dire, parce qu'on laisse, on ne peut pas ignorer ce qui se passe, et malgré tout, rien n'y fait, et nous ne sommes pas, visiblement pour le moment, en tout cas, proches d'une solution d'apaisement, et au contraire, ce sont les populations civiles qui en pâtissent le plus. C'est une guerre d'attrition qui ne fait pas secret de sa nature, hein. Il s'agit de casser la morale de la résistance yéménite, peut-être sur la durée, de créer tellement de malheur et de désespoir que la population civile locale se tourne contre le front de la résistance. Enfin, en tout cas, le comité de Salvation, National Salvation, donc la résistance yéménite dans son ensemble, et ce faisant, mettre les pressions sur des négociations politiques à venir qui permettent à la coalition de tirer les barreaux du feu.
Merci infiniment, Maître Arnaud Develet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Pierre Dortillier, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Manifestation à Idlib en Syrie contre le Hayat Tahrir al-Sham pour exiger la libération des prisonniers. Le vendredi 21 janvier, le village de Deir Hassan, dans la campagne nord d'Idlib, en Syrie, a été témoin d'un rassemblement de protestations des dizaines de manifestants contre les arrestations arbitraires menées par le Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-front al-Nusra, affilié à Al-Qaïda. La manifestation a commencé devant la grande mosquée du village et répondait à un appel du Conseil pour le rassemblement des familles du village de Deir Hassan. Les manifestants ont affirmé leur demande de libération de plusieurs détenus, alors que le Hayat Tahrir al-Sham les a arrêtés. Les arrestations dans le village de Deir Hassan, qui visaient de nombreux civils et dignitaires du village, sans aucune raison apparente, continuent. Le village a également été témoin d'une manifestation de femmes pour exiger la libération des détenus dans les prisons du Hayat Tahrir al-Sham le 23 décembre 2021. Le Conseil pour le rassemblement des familles a exigé la libération de tous les prisonniers opprimés détenus par le groupe terroriste. Les zones contrôlées par le Hayat Tahrir al-Sham dans le gouvernorat d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, et une partie de la campagne occidentale d'Alep, ont été le théâtre de nombreuses arrestations. En Syrie, 5 jours après l'attaque d'une prison de terroristes takfiristes par des membres de Daesh, les forces kurdes tentent de reprendre le contrôle de l'établissement. Les forces kurdes, soutenues par les États-Unis, tentent de resserrer l'étau mardi 25 janvier autour des takfiristes, retranchés dans une prison du nord-est de la Syrie, tandis que les efforts s'intensifient pour mettre un terme aux affrontements qui durent depuis 5 jours et ont déjà fait 166 morts. Plus d'une centaine de membres du groupe Daesh avaient pris d'assaut, jeudi dernier, la prison de Gayran à Hasake, l'une des plus grandes abritant des takfiristes en Syrie, avec des camions piégés et des armes lourdes. Les forces kurdes tentent de resserrer l'étau autour des combattants takfiristes qui se sont terrés dans le côté nord de la prison, a déclaré à l'agence France Presse le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, proche de l'opposition, Rami Abdelrahman. Il a précisé que les Kurdes procédaient à des opérations de fouilles et qu'ils progressaient lentement dans la prison, de peur que des combattants de Daesh ne leur tendent une embuscade. Certains des prisonniers de Daesh à l'intérieur de l'établissement ont déjà été transportés par bus vers d'autres centres de détention ces derniers jours. Mais il n'a pas été précisé combien étaient restés à l'intérieur de la prison. Plusieurs mineurs détenus dans la prison ont été transférés lundi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Si un accord pour un éventuel échange n'est pas conclu, il y aura un massacre. Des centaines de personnes seront tuées, a-t-il estimé. Les forces démocratiques syriennes, FDS, dominées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, n'ont pas confirmé les informations selon lesquelles plusieurs gardiens étaient détenus par des combattants de Daesh. Ils ont cependant signalé que 250 détenus de Daesh s'étaient rendus mardi, portant à 550 le nombre total de takfiristes qui ont capitulé. Les FDS, opérant sous couverture des forces aériennes de la coalition internationale menée par Washington, ont déployé des unités d'élite et des véhicules blindés à l'intérieur et autour de la prison, une ancienne école reconvertie en centre de détention très surpeuplé. Un assaut semblait imminent depuis lundi matin, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré que les forces kurdes étaient réticentes à lancer l'attaque en raison de la présence d'otages à l'intérieur de la prison. Les FDS s'attendent à ce que les combattants takfiristes assiégés soient à court de munitions et de fournitures, a déclaré Rami Abdelrahman. Selon lui, des pourparlers étaient en cours pour que certains membres des forces kurdes et du personnel pénitentiaire emprisonnés à l'intérieur soient libérés en échange de soins médicaux pour les combattants takfiristes blessés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que 27 otages sont détenus à l'intérieur de la prison et 40 personnes sont portées disparues. Rami Abdelrahman a indiqué que les membres étrangers de Daesh seraient opposés aux négociations, mais que de nombreux ressortissants syriens parmi les détenus étaient favorables à des pourparlers d'échange. Près de 45 000 personnes ont fui leur domicile après l'assaut de la prison et des intenses combats qui ont suivi, selon l'Organisation des Nations Unies. La plupart des détenus de la prison avaient été capturés par les forces kurdes soutenues par les États-Unis fin 2018 et début 2019, durant les derniers jours du califat autoproclamé du groupe takfiriste. L'ONG Save the Children a dit avoir reçu des messages vocaux d'un adolescent australien qui a été emmené en Syrie par ses parents à l'âge de 11 ans. « Il n'y a pas de médecins ici qui peuvent m'aider », peut-on l'entendre dire, après avoir expliqué qu'il a été blessé à la tête et à la main lors des violences. « J'ai très peur. Il y a beaucoup de cadavres devant moi », a-t-il également déclaré dans l'enregistrement, dont l'agence France Presse n'a pas pu vérifier l'authenticité. Selon des groupes de défense des droits de l'homme et l'Organisation des Nations Unies, plus de 700 mineurs seraient détenus dans la prison. La plupart de ces jeunes personnes sont originaires de Syrie, d'Irak, mais aussi de dizaines d'autres pays étrangers, selon Save the Children. Les Kurdes qui contrôle des régions du nord et nord-est de la Syrie, réclame en vain depuis des années le rapatriement de quelques 12 000 takfiristes de plus de 50 nationalités, de pays européens et autres, détenus dans leurs prisons.
Thank you.